Je fais pas beaucoup de sponsoring sur ce podcast, mais cette fois c'est différent parce que cette fois, le sponsor, bah c'est moi. J'ai une info à vous faire passer. Ma toute nouvelle formation Stratégie Persona est disponible. Stratégie Persona, c'est la solution pour toutes les personnes qui ont du mal à trouver des clients. Toutes les personnes qui ont du mal à définir qui sera leur prochain client. Toutes les personnes qui ont du mal à trouver les mots justes pour parler à leurs clients. Parce que oui, vous savez que mettre vos clients au cœur de votre stratégie, ben c'est ce qui va vraiment faire décoller votre marque. Sauf que c'est pas si simple que ça. Alors j'ai créé tout simplement la formation la plus complète du marché sur le persona. Et je vous fais une promesse, si vous la suivez et si vous l'appliquez, dans une semaine, vous saurez exactement qui est votre client idéal et ce qu'il faut lui dire pour qu'il achète. Stratégie Persona est disponible sur mon site, lepodcastdumarketing.com/stratégie persona. Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 202. Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent pas à pas et très concrètement pour développer votre activité. Il y a des mots en marketing qui reviennent régulièrement. On les entend, on les utilise même parfois sans vraiment toujours savoir ce qui se cache derrière. C'est pas qu'on veut faire croire qu'on sait ce qu'on ne sait pas, c'est juste qu'on n'a pas pris le temps de vraiment se poser dessus et de comprendre ce qui se cache derrière. Le mot du jour, c'est omnicanalité. Si vous avez déjà travaillé de près ou de loin avec un service marketing, je mets ma main à couper que vous avez déjà été confronté à ce terme « omnicanalité ». Et vous avez peut-être même croisé le chemin de ses cousins, cross-canal, multicanal, pluricanal, il y en a plein. À force, on s'y perd et surtout, au-delà d'une simple définition, j'avais envie de creuser le sujet pour comprendre vraiment comment cette stratégie impacte nos marques, pour quel type d'entreprise elle est faite, quelle est la place de nos clients dans tout ça et comment allouer nos budgets. Pour discuter de ce sujet que personnellement, je trouve passionnant, vous me direz ce que vous en pensez à la fin de cet épisode. Pour discuter de ce sujet, j'ai demandé à Thibaut de Morel de me rejoindre au micro du podcast du marketing. Thibaut, c'est le CMO de Permis Libre, l'école de conduite en ligne qui est fraîchement introduite en bourse, hein, rien que ça. Thibaut, c'est un véritable passionné de marketing et vous allez voir que notre discussion va bien plus loin qu'une simple définition de l'omnicanal. On est allé jusqu'à prononcer les mots de philosophie marketing. Bref, j'ai adoré cette discussion avec Thibaut. On aurait pu continuer à débattre pendant des heures, mais pour vous épargner, on s'était forcé de condenser notre avis, nos réflexions dans un épisode de 40 minutes. Dans une grosse demi-heure, vous saurez tout, tout, tout sur l'omnicanalité. Allez, je vous propose d'accueillir tout de suite Thibaut de Morel. Bonjour Thibaut, bienvenue sur le podcast du marketing.
Bonjour Estelle, merci beaucoup de l'invitation.
Ah, écoute, je suis très contente de te recevoir aujourd'hui. On va parler d'un sujet dont je n'ai littéralement jamais parlé sur le podcast du marketing. C'est un sujet peut-être un tout petit peu plus avancé que certains sujets qu'on peut discuter, débattre sur ce podcast, mais quoique, parce qu'en fait, c'est un sujet qui porte un nom un peu bizarre, comme on fait souvent en marketing, mais que finalement, on fait souvent sans vraiment s'en rendre compte, sans le savoir. C'est l'omnicanalité. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, Thibaut, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais?
Ok, avec plaisir. Donc, je m'appelle Thibaut, je suis Chief Marketing Officer chez Le Permis Libre. Le Permis Libre, c'est une start-up, maintenant un peu plus grosse, qui est une auto-école en ligne. C'est la première auto-école en ligne cotée de France. Et notre objectif à nous, c'est de faciliter l'obtention du permis de conduire, que ce soit par la flexibilité dans notre offre, qui est une plateforme digitale, et via aussi un tarif qui est ultra compétitif, notamment face aux auto-écoles traditionnelles. Et avant ça, j'ai un parcours pour le faire assez rapidement. Ça fait 15 ans que je travaille. Ça fait bizarre quand je le dis, j'ai l'impression d'être un peu vieux. Ça fait 15 ans que je travaille. J'ai travaillé dans différentes boîtes, comme Speedy France, chez TBWA Corporate. Je travaillais pour des structures un peu plus petites, comme des réseaux librairies. Donc, j'ai un double parcours plutôt orienté agence et annonceur.
Génial. Donc, du coup, aujourd'hui, tu vas nous parler d'un sujet qui est donc l'omnicanalité. L'omnicanalité, c'est un de ces mots qu'on entend un petit peu partout. En marketing. Et c'est un de ces mots qu'on utilise parce que ça fait bien dans les présentations, souvent quand on est responsable marketing.
Et je suis à peu près persuadée qu'il y a plein de gens qui savent à peu près ce que c'est sans vraiment trop être bien sûr de comprendre ce que c'est que l'omnicanalité. Est-ce que tu peux nous dire, pour toi, ce serait quoi une définition de l'omnicanalité ?
Ouais, j'ai envie de commencer par un préambule. Je suis hyper d'accord avec toi. Je trouve que le marketing, aujourd'hui, est devenu quelque chose de très verbeux. On a parfois l'impression que tout le monde est surexpert de plein de thématiques et qu'on a une forme de barrière à l'entrée juste sur la base du vocabulaire. Alors que souvent, je pense que c'est beaucoup du bon sens et un peu d'expertise, voire d'expérience. Donc, c'est vrai que ce mot-là, il peut faire un peu peur. Et même parfois, je ne suis pas sûr que moi, je vais vous apporter la bonne définition. Je vais apporter la mienne, en tout cas. Pour moi, l'omnicanalité, c'est le fait d'avoir une expérience client qui soit identique sur l'ensemble des différents canaux que l'entreprise peut proposer, donc des canaux physiques ou digitaux. Et on va retrouver une omnicanalité, que ce soit sur les réseaux de distribution ou alors sur la communication.
Et alors, du coup, cette omnicanalité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on communique partout, on fait tout en même temps ? Tu vois, c'est ça qui est un petit peu compliqué à appréhender, je trouve, quand on parle d'omnicanalité, c'est qu'on a l'impression qu'il faut être nécessairement partout.
Alors moi, ça, c'est un truc que je trouve hyper intéressant aussi. Effectivement, tu vas te retrouver dans des situations où on va te dire la panacée, c'est l'omnicanalité. Il faut absolument être omnicano parce que sinon, on va rater quelque chose. Au fait, tout va être fonction de ta stratégie d'entreprise. Si tu es une entreprise 100% digitale, une vraie digital native, tu es né de facto pour pouvoir vendre tes produits sur le net, tu n'as pas forcément vertu demain à avoir une boutique physique pour pouvoir vendre tes produits. Donc du coup, tu vas communiquer peut-être sur différents canaux, en ligne et physique, mais tu vas vendre tes produits exclusivement via ton site web. De l'autre côté, tu peux avoir une autre stratégie, qui est plutôt celle des retailers historiques. On va se retrouver avec des boutiques physiques qui avaient des zones de chalandise prédéfinies et qui, par l'intermédiaire du web, vont pouvoir se retrouver à pouvoir vendre leurs produits beaucoup plus largement. Et donc, du coup, ils ont créé leur propre site web. Et au départ, on avait deux expériences qui étaient distinctes. On faisait en sorte d'avoir un site physique et qui était peut-être très différent du site en ligne. Et on ne savait pas forcément que le client allait dans la boutique physique ou allait sur le site web. Là, on a réussi maintenant à se dire que l'objectif, c'est que le client, lui, s'en fout. Il a une interaction avec une marque, qu'importe qu'elle soit physique ou digitale. Il faut qu'il puisse vivre une expérience la plus fluide possible et qu'on le reconnaisse à peu près partout.
Ouais, ça part d'un prérequis qui est de dire, finalement, le client, maintenant, il n'est pas divisé dans sa vie et dans son parcours de consommateur. C'est-à-dire qu'il va aller peut-être dans la boutique physique, mais avant d'être allé dans la boutique physique, il a peut-être vu une pub sur Facebook, puis il a peut-être été sur le site, puis peut-être qu'après être allé dans la boutique physique, il n'aura peut-être pas acheté tout de suite ou il n'aura acheté qu'un truc et puis il va retourner sur le site internet pour prendre des infos. En fait, ce qu'on comprend là, c'est que le client n'est pas soit un client digital, soit un client physique. Il est, en tout cas, dans son immense majorité, il est mécaniquement les deux parce que maintenant, le digital fait partie de nos vies, c'est ça ?
C'est ça. Et je pense que ce qui est très drôle, c'est que nous, marketeurs, on a conscientisé ça, là où le client, lui, n'a jamais vu ces frontières-là. Lui, quand il allait chez Fnac, pour le citer, du coup, je refais un peu de pub, mais il va à la Fnac, qu'il aille dans le magasin ou qu'il aille sur le site, il a une expérience avec la Fnac. Maintenant que, d'un point de vue d'organisation, il y ait deux entités qui pilotent ça côté Fnac, qu'il y ait potentiellement des systèmes d'information qui pilotent des bases de données différentes, le client s'en fout et je pense qu'il a raison de n'avoir absolument rien à faire.
Ouais, c'est là où tu retrouves la force de la marque finalement. C'est que là où tu le dis, les marques l'ont conscientisé bien après en fait. Les clients qui se posent pas du tout cette question-là, les clients ils ont affaire à une marque. Ils ont pas affaire à quel est le touch point, où est-ce que j'ai rencontré la marque, à quel moment est-ce que je l'ai fait. Lui il s'en fout. S'il est allé à la Fnac, il est allé à la Fnac, que ce soit sur le site, que ce soit en physique, ça reste une histoire de marque. D'où l'importance de travailler sa marque et d'avoir cette cohérence de marque sur le digital, le physique et en fait finalement n'importe quelle activité de la marque.
Oui, je suis entièrement d'accord. Après, il y a juste un autre chose qu'on peut imaginer, c'est ce concept de multicanalité. En fait, on entend plein de concepts et parfois j'ai du mal à en comprendre les différences. On parle de cross-canal, des multicanals, d'omnicanal. Ce que j'ai compris en tout cas, c'est que la multicanalité, c'était de se dire qu'on pouvait imaginer des expériences différentes sur un point de vente physique et un point de vente en ligne. Et ça, on peut le faire si c'est un vrai parti pris. Et on peut très bien se dire que dans un shop physique, on a une expérience A. Par contre, qu'en ligne, on veut vraiment avoir quelque chose de résolument différent parce que ça sert notre marque, ça sert le propos de notre marque. Et là, ça peut avoir du sens. Mais du coup, c'est assumé et c'est reconnu comme tel et par la marque et par le client. Et c'est en ça que je trouve qu'aujourd'hui, on a voulu un peu tout complexifier parce que c'est ni plus ni moins que de la stratégie de marque, au fait.
Ouais, Et quand tu dis résolument différent, tu penses à quoi ? Tu penses à, par exemple, une marque qui serait finalement en point de vente assez... qui aurait une... je pense notamment à des marques d'alcool, je ne vais pas forcément citer, mais qui aurait une communication assez établie parce qu'ils sont là depuis longtemps et que finalement, ils existent en tant que tels. Et peut-être que sur du digital, ils vont se permettre des choses un petit peu plus fun, un petit peu plus... qui sortent un petit peu plus de l'ordinaire pour venir réveiller les choses peut-être aussi, c'est ça ?
Exactement. Et c'est parce qu'on peut aussi imaginer que ce sont des audiences différentes que je vais avoir dans mon point de vente physique, des gens qui sont plutôt orientés sur peu de digital. Par contre, qu'en ligne, je vais embrasser les codes du digital, je vais vraiment y aller à fond et je vais m'amuser à essayer de toucher ma cible qui vient sur mon site d'une certaine façon. Donc du coup, j'ai deux parcours différents pour deux cibles différentes. Ou alors, je leur dis à mes cibles, allez voir mon site, vous allez voir, il est complètement dingue. Et du coup, vous allez vivre quelque chose de nouveau. Et ça peut marcher. Mais je pense que ça peut marcher si et seulement si ça sert le propos de la marque. Mmh.
Ouais, je suis d'accord. C'est-à-dire qu'on peut être à la fois différent et cohérent. C'est pas ambivalent, ça, différent et cohérent. Cohérence, ça ne veut pas dire faire la même chose partout, tout le temps. Ça veut dire faire des choses qui sont cohérentes, qui sont en ligne avec ce qu'on raconte finalement. C'est-à-dire qu'une même personne, si on prend l'exemple d'une personne, par exemple moi, Estelle Ballot, je suis évidemment, je ne vais pas me comporter de la même façon, je ne vais même pas avoir peut-être le même vocabulaire d'ailleurs dans tous les moments de ma vie, quand je travaille et quand je suis avec mes potes faire un pique-nique à la plage, comme hier soir, je vais pas avoir forcément le même vocabulaire et la même façon d'être. Il n'empêche que je reste la même personne. Je suis pas Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Je vais pas changer de personnalité quand je suis au travail et quand je suis dans ma vie privée. Mais on va faire des choses un petit peu différentes. On va montrer une facette peut-être de soi un peu différente. Et finalement, la marque, c'est ça aussi. C'est jamais que une personnification d'une entreprise, d'un produit. Donc, on a le droit de montrer des facettes différentes selon où on se trouve. C'est ça un peu l'omnicanalité.
Ah oui, et puis en plus, là, tu me lances sur un sujet que j'adore, c'est la marque polymorphe, protéiforme, cette marque que... Alors là, je pars dans la philosophie, mais pour moi, la marque, c'est une forme de magma informe qui bouge, qui est toujours en mouvement, qui est approprié par le client. En tant que marketeur, on a un espoir, c'est que la marque ressemble à la façon qu'on a eu de la construire. Et après, il y a ce qu'elle devient. Et au bout d'un moment, le bébé, il nous échappe. Et il devient quelqu'un avec ses phases d'adolescence et d'adulte. Et c'est exactement ça. C'est pouvoir se dire que la façon qu'on va avoir de distribuer notre produit, c'est finalement que le reflet de ce que la marque est. Et la marque, elle est ce qu'elle devient par les clients, par les interactions, par les gens qui la composent. Et ça, pour moi, c'est... J'en parle presque avec émotion, ça me passionne, quoi. C'est un truc que je trouve hyper intéressant de venir personnifier la marque en tant qu'individu.
Ouais, ce que tu dis est très juste, c'est-à-dire que nous, dans les services marketing, on va aller créer, on va faire des brands caractères, on va travailler le persona, etc., etc., pour pouvoir construire ce qu'on imagine de la marque et construire son histoire, etc. Très souvent, moi j'ai été, tu sais, j'ai commencé ma carrière dans l'industrie du tabac, qui est une industrie très très particulière, mais qui a... un avantage, il y en a au moins un, qui a un avantage, c'est qui est que comme tu peux très peu communiquer ou communiquer de façon très très différente, finalement tu ne travailles que de l'image de marque et c'est du très long terme. Donc on travaillait beaucoup beaucoup de campagnes sur de l'image de marque, on racontait des histoires, bon. Et moi je trouvais toujours qu'on se faisait super plaisir, tu vois, qu'on était là, attends, on est des marketeurs là dans notre coin, on invente des histoires de fous, etc. Personne ne va rien comprendre à ça, c'est pas parce qu'on a fait un pauvre graphisme qui, nous, d'un point de vue philosophique, nous fait dire plein de trucs, que les gens vont le comprendre. Et j'étais souvent très, très, très surprise de voir à quel point les clients, l'audience, enfin les personnes qui pouvaient être en lien avec ces marques, et pas que la nôtre, hein, en l'occurrence, c'était plein de marques différentes, pouvaient comprendre les histoires des marques et se les approprier et rejouer avec et modifier les choses. Et en fait, ça, c'est un des trucs magiques, je trouve, du marketing. C'est ce que les gens appellent le blabla marketing bien souvent. Et ils ont raison. D'extérieur, moi, je trouve, on a l'impression que c'est beaucoup de bullshit marketing. Et c'est pas vrai, en fait. Alors, il y a du bullshit marketing, ça existe. Mais il y a plein de choses qui est un petit peu magique, mais qui se crée autour de cette marque, parce que c'est un peu ce que tu dis, c'est un peu de la sculpture presque, hein. Tu donnes une forme, puis après la vie va faire ce qu'elle fait, et c'est comme un enfant, tu vas lui donner tes valeurs, tu vas lui donner une certaine éducation, puis après il y a son environnement qui va faire que les choses vont changer. Avec la marque, c'est pareil, on ne peut pas tout maîtriser, c'est aussi l'audience, aussi l'environnement, aussi les personnes autour qui vont jouer dessus. Est-ce que, pour revenir à l'omnicanalité, est-ce qu'on peut dire que le client, l'audience, les gens, l'environnement font partie de cette omnicanalité? Est-ce qu'ils jouent un rôle là-dedans?
Ah, complètement. Je pense que tu peux devenir omnicanal par obligation, parce que tu dis que c'est une opportunité de business, que ça va te permettre d'élargir ton potentiel client, mais tu peux aussi devenir omnicanal parce que tu te rends compte que finalement tes clients le sont et que du coup, bah, pour leur répondre, tu dois le faire. Donc ta marque, pour le coup, elle devient entre guillemets subie, elle subit son marché. Et c'est pas grave, c'est pas quand je dis subir, le mot est peut-être mal choisi parce qu'on a l'impression que c'est contraint, mais non, en fait, tu t'adaptes juste aux différentes personnalités qui viennent composer ton marché. Donc oui, pour répondre à la question.
Du coup, tu sais, ça me fait penser à un mot que tu as utilisé en off. Tu m'as dit faut arrêter avec la marque dictatoriale. En fait, ce n'est pas la marque, ce n'est pas nous derrière la marque qui dictons tout. L'audience, elle fait partie aussi de la construction de cette marque, non?
Ouais, alors ça, c'est intéressant parce qu'en fait, c'était une directrice marketing d'une grande marque française que je ne citerai pas par élégance, mais qui disait dans un de ses plans qu'elle voulait remettre l'autorité de la marque sur une année. Vraiment, c'était son plan. Et moi, je me suis dit, mais c'est troublant de parler d'autorité de marque. Je comprends ce que ça veut dire. On parle de puissance de marque et c'est sûr qu'il y a certaines marques qui sont très puissantes et qui peuvent, du coup, en imposer un petit peu auprès du grand public. Et c'est très bien, elles ont réussi et je les félicite. Mais autorité de la marque, j'aime pas parce que j'ai l'impression que du coup, on essaye de dire à un client, voilà comment tu dois me percevoir. Et c'est pas possible. Je pense qu'on ne peut pas imposer la perception, on doit venir la suggérer. Et parfois, on doit s'adapter à la perception des autres pour pouvoir faire vivre son propos. Je prends l'exemple de Le Permis Libre. J'arrive, il y a un an, comme tout directeur marketing, peut-être un petit peu trop plein d'allant, je me dis, tiens, j'ai changé quand même pas mal de choses, que je vois trop de choses qui, moi, me dérangent. Et il y avait un truc qui me dérangeait, c'était ce terme d'auto-école en ligne. Personne ne comprenait vraiment ce que ça voulait dire, et moi, j'avais l'impression que c'était réducteur, et que les gens allaient penser qu'on conduisait finalement que sur des simulateurs,
ah, ouais.
Ce qui n'est pas le cas. Donc mon premier point, c'est de dire, bah, on va gommer ce mot d'auto-école en ligne. On va s'appeler, on est une auto-école classique avec des méthodologies en ligne et des vrais moniteurs physiques. Et en travaillant au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que mes clients et le marché avaient pleinement conscience que auto-école en ligne, ça voulait dire quelque chose. Ils avaient déjà mis en place des perceptions de ce vocabulaire-là et on est juste venu via une plateforme de marque compléter le propos en parlant d'auto-école en ligne et en vrai. Mais ce n'est pas ça que j'aurais voulu faire au départ. Ce n'était pas du tout ma perception. Je me suis juste adapté à la compréhension du marché sur mon propos de marque. Et derrière, je l'ai fait vivre. Et en ça, je ne suis pas une marque autoritaire ni dictatoriale. Je suis juste une marque qui s'adapte à ce que mes clients pensent comprendre, veulent comprendre. Et moi, derrière, j'ai juste besoin de les orienter pour être dans la bonne pédagogie. Je ne dois pas non plus me renier et faire en sorte de servir la soupe, parce que sinon, je serais mensonger et je ne deviens plus une marque, mais je deviens un service de seconde zone. Je dois juste trouver le juste équilibre entre prendre conscience de ce que mes clients veulent, comprennent, et les amener petit à petit à leur raconter une histoire en m'adaptant avec eux. C'est comme un chemin, on marche main dans la main ensemble, on est un petit couple, quoi, mes clients.
Mais j'aime beaucoup ce que tu dis parce que, encore une fois, ça nous ramène aux clients et ça fait un peu vieux jeu dans le marketing de dire ça, mais mince, moi je trouve que c'est vrai. Tu sais, de dire, ben, tout démarre par le client, par l'audience, par les gens à qui on s'adresse. Et finalement, c'est quand même eux qui sont importants. Et ce n'est pas le plan marketing qu'on a fait, la stratégie qu'on a au sein de la boîte, faire plaisir à nos investisseurs ou à nos managers ou à je ne sais qui d'ailleurs. C'est quand même d'abord les clients, ce qu'ils comprennent, ce dont ils ont besoin, ce qu'ils savent, ce qu'ils ne savent pas, ce qu'ils ont besoin de savoir. C'est tous ces éléments-là. Et c'est de revenir aux bases, de s'assurer que la marque, bien sûr, sert les intérêts de l'entreprise. Tu le disais, on n'est pas philanthrope, évidemment. On est une entreprise, on doit bien sûr gagner de l'argent. Mais initialement, on fait ça quand même pour les clients. Et je trouve que c'est intéressant de les remettre au centre, surtout quand on parle d'omnicanalité. Je voudrais juste revenir sur un point sur l'omnicanalité parce que finalement, j'ai un petit doute. Ce n'est pas si clair que ça pour moi. Quand on parle d'omnicanalité, Thibaut, est-ce qu'on parle de points de vente? De système de distribution, ou est-ce qu'on parle de communication, d'endroit où on communique, ou est-ce qu'on parle des deux?
On fait les deux. Selon moi, on fait les deux. Et c'est intéressant parce que Le Permis Libre, nous vendons en ligne, on dispense une prestation en vrai avec des moniteurs physiques qui font conduire, mais mon mode de distribution aujourd'hui, il est exclusivement en ligne. Mais par contre, ma communication, elle est 100% omnicanal. Et alors là, c'est une conviction qui est vraiment de mon côté. Je pense que la communication ne doit se faire que de manière omnicanale dans 90% des cas, sauf certaines marques qui sont 100% digitales et qui du coup ont un public qu'en ligne. Et pourquoi je dis ça ? C'est parce qu'on est dans un monde publicitaire. Je ne sais pas exactement les stats, mais je crois qu'on a plus de quelques milliers de sollicitations quotidiennes sur des messages publicitaires, que ce soit sur les marques qui s'affichent ou sur les pubs à la télé, à la radio, à l'affichage et en ligne. Et du coup, être omnicanal, ça devient, à mon sens, la meilleure des stratégies pour pouvoir aller répéter et faire comprendre sa marque sans tomber dans une espèce d'excès de lourdeur où on va être que sur un média à matraquer et à répéter encore et encore, mais jusqu'à l'overdose où le mec en peut plus de voir ton message. Donc pour moi, ce qui est important, c'est de pouvoir se dire, bah, je prends le monsieur lambda qui va au travail le matin, ou madame lambda, et prend sa voiture, bah, c'est parti, on y va. Donc d'abord, on peut-être arrêter de prendre du pain, bah, super, j'ai un sac à pain, donc c'est peut-être une stratégie un peu ancienne ou un peu ringarde, qu'importe, mais bam, premier rapport à la marque. Je prends après Waze, et j'ai une publication qui me dit, tiens, une petite pub qui parle de moi. Et ensuite, je vais allumer ma radio, on parle de moi. Je vais avoir l'affichage urbain, on parle de moi. Et cette répétition au fur et à mesure, de manière assez finalement douce, parce que je ne suis pas que avec le même message sur le même média, je pense que c'est ça aussi qui construit la mémorisation de ton message sans arriver sur le gros dégoût. Et j'ai un contre-exemple, parce que quand j'étais gamin, ça m'avait beaucoup marqué, c'était cette pub Mercurochrome qui m'insultait. Mmh. Où il répétait en boucle à la télé Mercurochrome, le pansement des héros. N'empêche que depuis 20 ans, je ne sais pas combien de temps, de quand date cette pub, mais finalement, je m'en souviens. Donc, ça avait marché. N'empêche que je me souviens de l'irritation que ça m'avait créé. Donc, voilà, il y a un enjeu, je pense, dans l'omnicanalité de communication, de pouvoir faire passer ton message avec force, sans arriver au dégoût et sans être pas subtil, au fait.
Ouais, c'est un peu toujours la grande question qu'on se pose quand on fait du media planning. L'idée, c'est de toucher suffisamment souvent, hein, un certain nombre de fois. Alors, on a dit 6 fois, puis on n'est pas forcément tous d'accord, mais peu importe. Mais de toucher, en tout cas, la personne plusieurs fois de façon à ce que, ben, elle nous connaisse, qu'elle se souvienne de nous, qu'elle pense à nous au moment de faire son choix, qu'elle ait confiance aussi peut-être en la marque. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses à mettre en place. Et à la fois, ne pas passer de l'autre côté. C'est-à-dire d'en faire trop et du coup d'arriver au dégoût, de dire « Attends, ils me gonflent, je les vois partout, c'est du harcèlement, ça me saoule. » C'est toujours assez compliqué de faire ça. Je trouve que le concept de l'omnicanalité vient nous servir ici. On va parler budget juste après, mais vient nous servir ici dans le sens où répéter le même message, voire la même pub, Mercurochrome c'était le cas, répéter le même message au même endroit tout le temps, comme ça plein de fois, on arrive assez vite à l'écœurement. Là où si tu viens une fois sur, par exemple, de la radio, une fois sur un podcast, pourquoi pas, tu vois, typiquement un truc un peu plus doux, tu viens raconter des choses plutôt que faire une pub au sens littéral du terme, une fois sur un affichage et puis une fois sur du digital, tu viens un petit peu diluer la façon dont tu touches ton audience et du coup, je trouve que c'est plus doux et que finalement, c'est plus, pardon, je vais remettre un truc de humain, etc., on va dire, elle nous saoule Estelle avec son humain, mais je trouve que c'est un peu plus cohérent avec ce qu'on est dans le sens où dans nos vies à nous, être humains, on fait plein de choses différentes, encore une fois, des choses professionnelles, des choses perso, des choses sympas, des choses pas drôles, etc. Et que finalement, quand on communique, c'est pas toujours de la même façon, avec le même message, au même endroit, etc. Qu'est-ce que t'en penses, toi ?
Bah, je suis entièrement d'accord. Après, ce qui est compliqué dans ça, c'est que finalement, on vient avec une approche quasi subtile du marketing. Et le marketing, je pense que c'est pas souvent subtil. Notre objectif, quand même, de base, on a beau dire, là, moi, je pars dans la philosophie et je te parle avec des trémolos dans la voix, mais à la fin du fin, ce que je veux, c'est quand même que l'entreprise gagne de l'argent, augmenter les ventes et augmenter les indicateurs de business. Ma notoriété, mon taux de visite sur mon site. Donc, c'est quand même, j'ai un objectif mercantile derrière. Et c'est ça qui est compliqué à faire comprendre. Et j'ai des débats, mais depuis que j'ai commencé à travailler, sur, Thibaut, si tu pars à la télé, déjà, ça coûte beaucoup d'argent. Combien ça me rapporte à court terme, il faut que ça rapporte tout de suite, mais si tu me dis que ça marche, bah alors arrête tous les autres budgets et mets tout sur la télé puisque ça fonctionne. Et derrière, tu m'as montré par une étude de notoriété que ta notoriété assistée, elle a fait x3. Bah, est-ce que si tu n'avais pas mis 2 millions de plus sur le budget, tu n'aurais pas fait x6? Et encore une fois, on est connu, c'est bien, mais est-ce qu'on est connu pour les bonnes raisons? Mmh. Connaître le nom de la marque comme Mercurochrome, c'est peut-être très bien, mais peut-être qu'à l'époque, moi, je ne savais pas ce que ça faisait Mercurochrome. Donc c'est là où c'est compliqué. C'est cette subtilité-là, elle doit servir un propos qui est de dire je fais émerger ma marque avec une bonne notoriété, mais une bonne compréhension de ce que je fais et une bonne compréhension de ma différenciation sur mon marché. Et ça, par contre, ça prend du temps. Tu le disais tout à l'heure, à très juste titre, c'est que finalement, ces stratégies-là, c'est des stratégies de long terme. Quand tu travailles dans le tabac, bah, c'est sûr que ce n'est pas en 2 campagnes que tu vas faire plus 15% sur ton chiffre d'affaires. De l'autre côté, bah, quand tu es face à des investisseurs ou à même des dirigeants de boîtes qui, eux, se disent bah, « En fait, je mets quand même beaucoup d'argent dans mon plan marketing, combien ça rapporte à la fin ?» Compliqué. Je vais même encore un cran plus loin. C'est alors, qu'est-ce qui marche le plus entre l'affichage et la télé ?
Oui.
On a fait une campagne omnicanal. Alors, tu peux me dire quel média a rapporté combien ? Bah, ça fait 15 ans, je ne sais pas le dire. Alors après, il y a plein de boîtes qui sortent, qui vont me donner des indicateurs, qui vont me donner des pistes, qui vont me donner des signaux faibles. Mais rationnellement, je mentirais si je pouvais dire, quand je mets 1 euro à la télé, ça me rapporte X quand j'ai mis plein d'autres médias en face. Donc l'omnicanalité ne me permet pas d'avoir un suivi fin des résultats de mes actions de communication.
Je vais te dire, je trouve que c'est un peu le problème du digital. Alors, je vais m'expliquer. Je trouve que le digital a été une révolution pour plein de choses, et notamment le fait que des boîtes qui avaient moins de budget ont pu commencer à communiquer. Ça, c'est super. Mais le problème du digital, c'est que, et c'est un avantage, il nous a permis justement de savoir combien on gagnait selon, voilà, j'investis tant en pub, bim, boum, je vois tout de suite à quel taux de conversion j'ai, etc. Et combien ça rapporte. Donc, c'est presque mathématique. C'est pas totalement mathématique, faut pas dire de bêtises, mais il y a quand même un espèce de suivi de KPI qui est ultra, on a de la data. Ce qu'on n'avait pas, ou en tout cas beaucoup moins avant. Quand je dis avant, c'est quand j'ai commencé le marketing et qu'on avait la pub, l'affichage et la presse et basta. Mais, effectivement, ce digital, ça nous a permis d'aller, pas rentabiliser, mais en tout cas suivre vraiment les datas. À l'inverse, là où c'est très compliqué, c'est que ça nous permet de suivre quand on est sur quelque chose de très immédiat. Je fais une pub, boum, je vends. Je fais une pub, boum, je vends. Ça ne crée pas d'image. Ça ne construit pas d'image. L'image, nécessairement, c'est quelque chose qui se construit dans le temps. Exactement comme une personne, parce que tu connais pas quelqu'un, parce que tu l'as croisé en te la présentant dans la rue, t'as dit bonjour, ravi de te rencontrer, Thibaut. C'est pas pour ça qu'on se connaît. Si on veut se connaître, il va falloir qu'on puisse avoir l'occasion d'échanger à plusieurs reprises pour commencer à percevoir la personnalité. C'est la même chose avec une marque. Et ça, c'est très difficile. C'est pour ça ce que tu disais. C'est pas parce que t'investis 2 millions en pub que finalement tu sais dire si ces 2 millions sont directement corrélés au chiffre que tu vas faire derrière. C'est très difficile de quantifier l'image de marque, la notoriété. Et pourtant, on en a besoin tout autant que de faire des ventes. C'est un peu un mix des deux qu'il faut réussir à allier et à vendre à nos investisseurs, à nos boss, etc. T'es d'accord avec ça?
Ah oui, complètement, et puis c'est mes sujets du moment, et j'ai travaillé dans une boîte pendant 4 ans avant qui s'appelle L'Appart Fitness, qui est un réseau de distribution, enfin un réseau de franchise, pardon, et on avait les mêmes questions. C'est, j'ai ma vision court terme, il faut que je fasse des ventes ou des abonnements, mais j'ai ma vision long terme où, avec un fort capital marque, le fameux brand equity dont on parle parfois, mais ce capital marque-là, il a une forte valeur, parce qu'il me permet après d'acquérir des clients à moindre coût. Et d'ailleurs, c'est drôle, parce que quand tu fais une session de boîte, c'est marrant, on vend pas que le portefeuille client, mm-hmm. on vend aussi la force de la marque.
Ouais.
Et on n'en parle pas quand on est sur des phases de croissance, parce que finalement, ce qu'on veut, c'est du chiffre d'affaires vite, vite, vite. Mais au moment de la cession de l'entreprise, si c'est possible, tout d'un coup, ton capital marque, il a du sens, et ta notoriété, elle a une valeur. Mais c'est sûr que c'est compliqué parfois à faire passer, parce qu'on va vouloir se dire les ventes d'abord, et le digital, pour ça, ça aide terriblement. Voilà, le mec recherche sur Internet et il a tout de suite des mots-clés qui remontent, qui sont sponsorisés. Il clique sur mon site, le site est bien fait, il transforme. C'était facile.
Ouais, c'est sûr que c'était facile. Enfin, en tout cas, ça paraît facile une fois que, une fois que c'est fait et que c'est bien fait. Si on parle de budget, moi, il y a quand même un truc avec l'omnicanalité qui est compliqué. Alors, ça l'est peut-être moins, quoique, tu vas me dire si c'est le cas, ça l'est peut-être moins quand tu es dans une boîte comme le Permis Libre. C'est une grosse boîte qui est établie, qui a un vrai budget. Donc, bien sûr, on va pouvoir aller avoir son budget sur, je ne sais pas, de la pub télé, de la presse, du machin, du digital, etc. Quand tu es une plus petite entreprise, voire quand tu es une toute petite structure, par exemple, si tu es un solopreneur, a priori, tu ne vas pas aller à la télé. Il y a quand même relativement peu de chances, à moins d'être sur des chaînes ultra, ultra spécifiques. Mais en tout cas, sur du mass market, on ne va pas pouvoir y aller. Comment est-ce que tu vois la chose? Comment est-ce qu'on fait, finalement, pour savoir si on peut aller sur de l'omnicanalité? J'imagine que l'omnicanalité, elle est polymorphe. Hein, tu peux avoir plein de façons de faire de l'omnicanalité. Et comment on fait pour allouer son budget? Est-ce qu'en fait, on n'est pas en train, et c'est ce que je dis à plein de gens, plus sur le temps passé, mais est-ce qu'on n'est pas en train de diluer son énergie, diluer son budget, diluer son temps à aller communiquer un peu partout? Comment on fait pour trouver la juste mesure?
J'adore la question parce que j'ai 1000 réponses. Mon point de base, ça serait de dire que si je dis qu'il n'y a qu'une réponse, je pense que je suis un menteur. Je pense qu'il y a autant de réponses que de directeur marketing. Et j'ai eu un débat hier avec mon CTO où on n'était pas d'accord, mais fondamentalement pas d'accord sur un sujet de fond. Et je pense qu'il a raison et que je pense que j'ai raison. C'est la gauche et la droite, je ne fais pas de politique, mais peut-être que chacun a raison et que chacun défend une vue. Donc déjà, je ne suis pas sûr que j'ai raison dans ma réponse que je vais vous apporter juste après. Après, ce que je pense, c'est que si on est un entrepreneur seul, déjà, on peut réduire sa zone de chalandise, savoir déjà son périmètre. Si on arrive à peu près à cibler sur une zone, on va pouvoir commencer à travailler de manière un peu plus intelligente. Je pense que la notoriété est quand même un élément important, mais par notoriété, quand on est plombier ou graphiste freelance, la notoriété, c'est aussi se faire connaître et avoir une perception positive du travail qu'on a produit par l'intermédiaire de tiers pour pouvoir aller rassurer un prospect. Et ça, du coup, c'est notoriété et considération. Donc c'est pour ça que je pense que c'est important, et on peut le faire sans pour autant avoir forcément un très très gros budget. On va pouvoir le faire avec une page web qui est propre, avec des avis Google, on peut le faire vraiment en ligne, sans se dire que je vais aller dépenser beaucoup. Mais on va pouvoir aussi aller faire de la notoriété avec des actions locales, très simples, avec un entrefilé dans la presse régionale, voire 100% communale. On peut le faire avec de la visibilité chez les commerçants en local. Donc finalement, à moindre coût, je peux le faire avec des actions simples. Maintenant, je pense que ça dépend aussi du momentum dans lequel on est. Si on est sur une phase d'acquisition de clients, peut-être qu'on peut faire le strict minimum sur la dimension de notoriété pour d'abord aller faire du chiffre, d'abord aller sécuriser un peu de son business pour pouvoir déjà avoir des éléments de preuve à apporter et qui vont venir justifier le fait que tu existes pour quelque chose. Mais j'aurais tendance à penser qu'il ne faut pas trop le différer pour vite construire son capital marque, parce que si tu ne le fais pas dès le départ, au bout d'un moment, je pense que tu ne le fais jamais, quoi.
Ouais, je suis complètement d'accord. C'est-à-dire le capital marque, ça doit faire partie de la base de notre marketing. C'est-à-dire que c'est tout au long de la vie de la marque, c'est du long terme. Donc on a intérêt à le commencer dès le début parce que on va en tirer les fruits en fait beaucoup plus tard. Et puis ça nous empêche pas d'avoir des momentum beaucoup plus forts et presque immédiats tout au long de la vie, voire beaucoup au début effectivement pour pouvoir démarrer, se donner une structure, se donner une existence finalement. Mais on démarre les deux en même temps. En fait, on travaille. Ce que ça veut dire, c'est quoi? C'est qu'il faut travailler à la fois des éléments long terme et à la fois des éléments court terme pour pouvoir avancer et grossir gentiment sans avoir à courir après et le cash et la noto, c'est ça?
Ouais, c'est exactement ça. Et je pense que c'est vachement compliqué pour quelqu'un qui soit n'est pas du milieu, soit est quelqu'un qui est un entrepreneur seul et qui se dit qu'il faut d'abord qu'il mange à la fin du mois. Moi, j'ai eu l'opportunité, durant ma carrière, de faire des missions d'accompagnement de conseil en freelance, et j'ai accompagné des startups de management ou alors des entreprises qui faisaient plutôt du conseil en recrutement. Ils avaient 10 ans d'expérience, mais ils n'avaient rien sur leur fondement marketing. Pas de plateforme de marque, pas de valeur, pas de mission posée. Et ils ont eu l'intelligence un jour de se dire que ça leur manquait et qu'ils avaient besoin de ça pour pouvoir franchir un palier. Et je pense qu'ils auraient gagné du temps si, dès le départ, ils avaient posé sur un coin de table un peu une vision, peut-être un peu métaphysique, peut-être que leurs amis au dîner le soir le diraient, mais enfin, il se prend pour qui? Il se prend déjà pour le maître du monde à vouloir avoir une vision, une mission. Ben, je pense que c'est pas mal, même si c'est balbutiant, même si c'est un peu brinque-ballant, ça mérite d'exister parce que ça pose des jalons et ça met dans une dynamique de se dire que la marque, c'est pas juste un logo sur un t-shirt qu'on vend trop cher pour des gamins dans les cours d'école. C'est une direction pour son business et c'est franchement, c'est une vigie, je pense. Ça nous permet d'aller quelque part. Donc la notoriété, c'est pas que la notoriété, c'est beaucoup plus que ça.
Ouais, c'est intéressant cette histoire de vision, c'est qu'effectivement, encore une fois, tu vois, moi je m'accroche beaucoup à cette histoire de personnification de la marque, je trouve que ça parle assez facilement. Quand tu parles de vision, tu regardes le chemin vers lequel tu veux emmener cette personne. Et c'est comme quelqu'un qui commencerait sa carrière et qui se dit où est-ce qu'il veut aller avec sa carrière. Il peut y avoir plein de carrières différentes. Et elles sont toutes louables. Et tout le monde n'a pas besoin de devenir CEO de la plus grosse boîte du monde. C'est pas du tout vrai. En revanche, de savoir où on veut aller, ce qui va nous rendre heureux, ce qui va nous rendre plein ou en tout cas épanoui, c'est super important pour notre personne. C'est exactement la même chose pour une marque. C'est-à-dire que si tu sais où tu veux emmener la marque, ben, tu ne vas pas faire les mêmes choix, tu ne vas pas aller vers les mêmes messages, vers les mêmes personnes, vers les mêmes partenariats, et tout ça participe à la marque. Merci beaucoup, Thibaut. On a parlé de l'omnicanalité, on pourra en parler pendant des heures, je pense. C'était un épisode un peu différent de ce que je fais d'habitude, un petit peu plus presque philosophique, mais je trouve que ça fait du bien aussi d'aller chercher ce que c'est que la marque et comment est-ce qu'on peut aller construire tout ça. Je vais essayer de nous faire un résumé. Je vais évidemment louper plein de trucs de ce qu'on a dit parce qu'on n'a pas du tout nécessairement suivi un plan précis. On a laissé un petit peu aller nos réflexions, mais juste pour essayer de résumer les grandes idées. Déjà, qu'est-ce que c'est que l'omnicanalité? Tu nous disais, il peut y avoir plein de définitions de l'omnicanalité, de la pluricanalité, de la cross-canal, etc. Il y a plein de mots comme ça, un petit peu marketeux, qu'on sort parce que c'est notre entre-soi souvent qui veut ça, et on ne le fait pas forcément exprès d'ailleurs, mais il n'empêche que, voilà, c'est comme ça. Mais en tout cas, pour faire simple, l'omnicanalité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va pouvoir venir exister et communiquer, je vais le dire comme ça, à plein d'endroits différents. Et que finalement, la marque, elle n'est pas à restreindre à un seul univers. Elle se promène finalement dans sa vie de marque, et ça veut dire qu'elle peut à la fois être distribuée dans de différentes façons, en physique, en digital notamment, pour simplifier les choses. Mais c'est aussi dans sa communication qu'elle peut travailler différemment. Elle peut communiquer en physique, c'est-à-dire quand on se balade dans la rue, on va croiser ce qu'on appelle des touch points, des moments où on va avoir un message de la marque, qui peuvent être encore une fois très très variés. Et en digital également, on va pouvoir avoir des choses. Et on va pouvoir d'ailleurs, ça va même plus loin que ça, avoir des messages qui vont être différents. Tu nous disais, une marque peut tout à fait avoir un côté peut-être, par exemple, un peu sérieux en physique, tout comme nous, quand on est un peu professionnel, on va un petit peu se mettre un certain nombre de barrières, ou en tout cas utiliser un vocabulaire peut-être un peu différent. On va pas avoir la même, pas montrer toute notre personnalité, c'est une facette de notre personnalité. Et puis en digital, peut-être qu'on va montrer une facette un petit peu différente. C'est pas incohérent, ça permet d'enrichir la marque dès lors que on reste sur la même personne. Moi, je le mets toujours comme ça. Cette cohérence, il faut l'avoir sur une personne. On ne dit pas nécessairement la même chose, ni, pardon, de la même façon. On le dit juste selon différentes facettes. Tu nous disais aussi l'omnicanalité. Est-ce que finalement, c'est pour tout le monde? Oui, probablement pour tout le monde, parce qu'on peut jouer avec le curseur et aller regarder comment on peut communiquer. On n'est pas tous obligés de passer à la télé et d'avoir les budgets pour communiquer absolument partout. Non, bien sûr, et encore heureux, parce que là, on serait encore plus abreuvé de messages. Mais en tout cas, on peut aller regarder ce qui se passe auprès de nos clients. Et on a eu toute une discussion là-dessus sur l'importance de revenir encore une fois aux clients, et que c'est pas la marque, on parlait de marque dictatoriale, c'est pas la marque qui doit toujours dire ce qu'elle pense, qu'elle doit faire, comment elle doit être et comment le client doit réagir. La marque, finalement, c'est quelque chose qu'on va impulser, nous marketeux, on va essayer de créer quelque chose, on va commencer à façonner un petit peu une forme, et puis c'est l'environnement, c'est nos clients, c'est notre audience qui va venir prendre cette forme et puis venir continuer à la construire. Donc c'est de la co-construction, quelque part, on peut dire ça comme ça. Et il faut aussi laisser la place à cette marque de pouvoir vivre. Et nous, en tant que marketeux, savoir re-regarder nos clients, comprendre ce qu'ils comprennent, ce qu'ils ont besoin de comprendre, ce qu'ils ont envie de comprendre, ce qu'ils ont envie de découvrir pour pouvoir réajuster la marque. Tu le disais, il ne faut pas se laisser endormir non plus, parce que si on ne fait que donner ce que les gens attendent, souvent on donne quand même plus grand chose, mais il faut savoir un petit peu jouer avec ça et faire un pas de deux finalement, hein. c'est une danse à deux. Ensuite, on parlait de budget, parce que oui, c'est bien joli de se dire, attends, c'est génial, on va communiquer partout et tu vas voir, ça va être merveilleux, on va pouvoir montrer toutes les facettes de notre personnalité. Oui, mais bon, tout ça a un coût nécessairement, et on le sait, c'est encore plus vrai, je pense, depuis que le digital est là. On va vouloir savoir si chaque euro investi, combien va-t-il nous rapporter. Et ça, on peut le faire parfois, notamment dans le digital, mais il y a d'autres moments où on ne va pas pouvoir le faire, et notamment sur la création de marque. Et tu nous disais quelque chose de très, très juste, je trouve. Tu nous disais, attention, grosse marque, petite marque, ce n'est pas vraiment le sujet. On a intérêt à toujours penser à développer notre marque, même quand bien même c'est du long terme, on n'en voit pas les résultats nécessairement tout de suite. C'est difficile aussi à vendre à nos boss, à nos investisseurs, parce que il n'y a pas de KPI si évident que ça à trouver. Mais c'est absolument essentiel, parce que c'est ce qui va nous permettre, ça je trouvais ça très juste, c'est ce qui va nous permettre après de pouvoir avoir des momentum et des actions plus précises, plus par exemple digitales ou plus immédiates de vente, qui vont nous coûter moins cher, parce que ce capital de marque va exister. Tu le disais, quand on vend une entreprise, eh ben on vend aussi le capital de marque et pas que ce que rapporte la marque en chiffre d'affaires. Donc, ultra important d'aller travailler ce long terme du développement de la marque et ce court terme d'aller convertir. Voilà, j'ai essayé de résumer comme j'ai pu tout ce dont on a parlé, Thibaut, mais je trouve que c'est un sujet qui mérite vraiment d'aller se poser, d'aller creuser les choses et se poser, qu'on soit une grosse marque ou une petite marque, tu vas me dire si tu es d'accord. Je pense que c'est intéressant à un moment donné de se dire, bah tiens, attends, on prend une demi-journée, on se met off, on prend une demi-journée juste pour aller se poser et regarder comment on travaille, comment on communique, ce qu'en comprennent nos clients, notre audience, et comment est-ce que tout ça peut vivre ensemble. Qu'est-ce que tu en penses?
Bah déjà, j'ai envie de te dire bravo pour la conclusion.
Merci.
Je trouve ça top. Je t'ai écouté avec beaucoup d'intérêt, donc merci pour ça. Et oui, je suis d'accord avec toi. Je pense que le pas de recul, savoir prendre un coup de hauteur, se poser des questions qu'on n'a pas l'habitude de se poser, peut-être parfois dire que la question elle est trop grosse, c'est pas grave, et je pense que ça vaut le coup.
Trop bien, j'ai envie de finir là-dessus. Merci beaucoup Thibaut, c'était passionnant. J'aurais pu continuer des heures comme ça à discuter avec toi. Si on veut en savoir plus sur l'omnicanalité, si on veut discuter avec toi, si on veut comprendre un petit peu tous ces mécanismes, où est-ce qu'on peut te suivre Thibaut?
Le plus facile, c'est sur LinkedIn. En règle générale, je réponds à peu près à tout le monde.
Eh ben génial. Écoute, je mettrai ton lien de ton profil LinkedIn sur les notes de cet épisode, comme d'habitude. Donc, n'hésitez pas à contacter Thibaut pour discuter de tous ces sujets d'omnicanalité. Merci beaucoup, Thibaut.
Merci à toi, c'était top.
Un grand merci, Thibaut, d'être venu échanger avec moi sur ce thème de l'omnicanalité qui est si passionnant parce que, bien, il concerne finalement tout le monde. On a tendance à croire parfois que ça ne concerne que les grosses entreprises, mais absolument pas. Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur maturité, peuvent être concernées par l'omnicanalité. C'est en fait surtout savoir encore une fois se mettre à la place de son client. Et tu sais, Thibaut, à quel point c'est important pour moi de réfléchir d'abord par le prisme de la clientèle, de nos clients, de notre cible. Donc merci à toi d'avoir partagé tes réflexions, ton avis avec moi sur le podcast du marketing. Si vous avez aimé cet épisode, eh bien, je vous invite à laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. On peut le faire également sur Spotify. Laisser un avis 5 étoiles, ça veut dire montrer aux algorithmes que vous trouvez que c'est un bon podcast et que c'est un podcast qui doit être proposé à un maximum de gens. Donc, si vous voulez me soutenir, si vous voulez aider le podcast du marketing à continuer à proposer des épisodes et bien sur les stratégies marketing, allez-y, laissez un épisode 5 étoiles, un petit commentaire, je les lis tous, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Allez-y, je vous remercie par avance de ce petit coup de pouce. Je vous dis à très vite.